Donc, dernière intervention de cette matinée fort dense et fort riche. Grand plaisir d'accueillir Agnès Pommier de Santi, qui a la double caractéristique particulièrement intéressante pour nous d'être à la fois professeur des écoles en maternelle et docteur en sciences de l'éducation dans l'Académie de Nice, et qui donc va nous parler de l'adaptation des gestes professionnels aux différents profils d'enfants. Merci à vous.
Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que d'abord, je voudrais juste dire un mot sur la recherche moi, que j'ai entamée et qui est un petit peu transcrite là, mais là, ça sera beaucoup plus réduit. C'est vraiment la question de la relation affective entre le maître et l'enfant. Hein, c'est vrai, c'est vraiment ma problématique. Et cette question fondamentale pour vraiment, et j'avais envie de le dire aujourd'hui, pour cesser avec cette scission que l'on a toujours tendance à faire, parce que c'est dans les formations, c'est dans les esprits, entre l'affectif et le cognitif chez l'enfant, et surtout éviter de laisser tout l'axe psycho-affectif du développement, peut-être aux aides maternelles, comme ça a été beaucoup fait. C'est pas assez fort ? Ah, voilà. Et de rendre à l'enseignant toute son importance dans ce développement psycho-affectif et dans la gestion, l'accompagnement des émotions de l'enfant dans la classe et au cours des apprentissages. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet avec la théorie de l'attachement, parce que cette théorie de l'attachement, eh bien, on ne la connaît pas toujours vraiment. Hein, on a cette notion de la sécurité d'attachement. Mais en fait, ça couvre beaucoup plus de choses, cette théorie.
Tu sais quoi, Dédé ?
Je ne sais pas si vous entendez bien.
Pourri mais... comme les auvergnats, toi.
Tu sais ce que c'est que l'attachement ?
L'attachement ?
Ouais. L'attachement à quelqu'un.
Mais c'est quand on est... C'est quand on est attaché à quelqu'un, non ?
Justement.
Voilà, justement. Justement, dans le langage courant, le fait d'être attaché, on peut être attaché à quelque chose, un objet, tenir beaucoup à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça n'est pas le sens même de la théorie de l'attachement. Voilà pourquoi je voulais rentrer un peu dans le vif du sujet de cette théorie. Donc tout d'abord, très rapidement, un petit historique. On parle d'une théorie récente et fort mal connue encore en France, puisqu'elle date des années 1960, mais que, je dirais, la dernière traduction de l'ouvrage de John Bowlby de développement et perte est seulement apparue en 1982. Donc on parle d'une révolution psychologique du fin du XXe siècle, mais qui commence à émerger chez nous seulement depuis peu, en fait. Alors John Bowlby est un psychanalyste anglais, et il va s'intéresser tout particulièrement à la séparation précoce dans un contexte de guerre et d'après-guerre et à ses conséquences sur l'enfant. On parle là de séparation durable. Et pour ce faire, eh bien, c'est vrai qu'il va se tourner vers de nouvelles sciences, et on va parler de révolution scientifique, puisque John Bowlby va s'appuyer sur des théories du comportement, et à cette époque-là, des théories du comportement animal, qui est l'éthologie, une science du vivant et des comportements des espèces, et qu'il va se servir donc, de cette science éthologique pour mettre en avant, je dirais, le principe fondateur, le principe essentiel de cette théorie, qui est fait que l'attachement serait un besoin primaire, au même titre que l'alimentation pour l'enfant. Et donc il va remettre en cause, comme cela, eh bien, c'est vrai, les principes de la psychanalyse, les principes de la théorie des pulsions et de l'étayage. On avait tendance à mettre en avant que le fait que l'enfant était attiré par la mère parce que justement il voulait se nourrir, et pulsionnellement il était attiré par le sein de la mère parce que ça représentait l'alimentation. Et lui va un petit peu bousculer tout ça. Il va d'ailleurs se fâcher avec la société psychanalytique anglaise à ce moment-là. Mais pour mettre en avant, vraiment, en s'appuyant sur les travaux essentiellement de Harlow, qui fait des expériences sur les petits singes macaques, pour montrer que, oui, l'attachement chez l'être humain est un besoin essentiel et primaire, c'est-à-dire que sans attachement, eh bien, un enfant se laisse mourir, au même titre que s'il ne se nourrit pas. Voilà. Et donc, il va engager, en 1969, moi j'aime beaucoup parler de cette séquence-là parce qu'elle est très marquante, je n'ai pas de film à vous montrer, mais je vais vous l'expliquer. Il va engager un travailleur social qui s'appelle Robertson et qui va faire des films comme ça, sur les nurseries et la séparation du jeune enfant de sa mère quand celle-ci n'est pas accompagnée et qu'elle est durable. On parle vraiment de séparation durable. Donc là, ça dure en gros une semaine parce que le petit John donc, va être accueilli en pouponnière. Tout simplement parce que sa maman entre à l'hôpital parce qu'elle va accoucher et qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui puisque son papa travaille. Donc John est accueilli en nurserie et donc il va assez mal vivre cette séparation qui n'a pas été préparée. Et Woolby va montrer comme ça que dans une séparation comme ça un peu longue, il y a trois phases chez l'enfant. Il y a d'abord la phase de protestation, évidemment, quand le parent s'en va. Puis petit à petit, il va rentrer dans une phase de désespoir parce que ça dure trop longtemps. Et enfin, l'enfant va rentrer dans une phase de détachement de ses parents. Et sur la vidéo, c'est très visible. Donc on voit ce petit enfant qui rouspète, manifeste à chaque fois que son papa, parce que c'est son papa qui vient le voir régulièrement le matin ou le soir quand il passe voir la maman. Donc s'accrocher à ses jambes, pleurer, crier, essayer de se tourner vers les nurses pour chercher du réconfort. Mais c'est vrai que les nurses ont beaucoup de travail, elles ont beaucoup d'enfants dont elles s'occupent, donc elles n'ont pas toujours le temps. Et donc on voit petit à petit, au cours du film, le petit John commencer à entrer dans une phase de désespoir où il pleure beaucoup, où il est beaucoup accroché à son doudou, où il commence à plus vraiment avoir envie de jouer, ni même de manger. Et puis la phase de détachement, c'est que quand son papa vient le voir, John ne va même plus tourner la tête vers lui. Il sera dans un coin, un peu prostré. Et les parents de John diront que par la suite, il est vrai, ils ont eu un peu de mal à récupérer cette relation avec leurs enfants parce que ça a créé effectivement une coupure des liens d'attachement entre l'enfant et eux-mêmes. Et toutes ces expériences qui ont été faites dans les hôpitaux, toujours sous le regard de la théorie de l'attachement, ont permis, c'est vrai, d'apporter beaucoup d'améliorations dans l'accueil des petits-enfants à l'hôpital et dans les crèches et les nurseries. Voilà. Donc, au sens de la théorie de l'attachement, être attaché, c'est avoir la capacité, en cas de besoin, de se tourner vers une personne pour se sécuriser. Et principalement face à tout ce qui est du domaine des émotions dites négatives. Donc la peur, le chagrin, la colère, puis toutes les émotions qui vont en dériver. Ou alors face à un danger potentiel comme un animal, un chien qui aboie, une personne étrangère. Donc le principe est vraiment lié à ça. C'est j'ai peur, j'ai besoin de réconfort, vers qui je me tourne? C'est cette personne-là vers laquelle je vais me tourner, qui, en général, va représenter, je reparlerai tout à l'heure, la figure d'attachement de l'enfant. Mais ça fonctionne vraiment avec ce principe-là d'émotions négatives. Et on sait qu'un enfant est attaché à telle ou telle personne. Quand il y a un bruit, quelque chose de soudain ou qu'il perçoit comme dangereux, il va tout de suite s'accrocher à cette personne-là. Voilà. Donc vous voyez, alors avec une recherche effectivement de proximité de cette personne, avec des comportements refuges, la personne lui sert de base de sécurité, on dit, et l'enfant montre des réactions très marquées lorsque cette personne s'en va ou fait mine de s'en aller. Voilà. Et la théorie de l'attachement aussi n'est qu'une des dimensions du lien parent-enfant, et ce n'est pas une théorie explicative du développement humain. Donc il y a trois principes fondamentaux dans cette théorie. Il y a les comportements d'attachement de l'enfant, la figure d'attachement base de sécurité, et cette fameuse balance dynamique entre l'attachement et la capacité d'exploration qui sont qualifiées de deux systèmes motivationnels qui sont directement issus des sciences éthologiques et qui sont des systèmes de comportement acquis et préprogrammés chez l'enfant. Donc ces comportements d'attachement, les voici, c'est chez le très jeune enfant, toutes ces conduites qui sont effectivement programmées pour qu'il puisse s'attacher aux parents, puisque c'est vital, puisqu'il sait que sans cet attachement, il ne pourra pas survivre. Donc il a toute une batterie de comportements, comme ce qu'on a pu observer et que les mamans ont pu observer chez leur bébé, donc la succion, l'agrippement, le regard, le sourire, les cris, les pleurs, l'accrochage, et puis le suivi de la personne quand l'enfant est en capacité de se mouvoir seul. Voilà. Et donc tous ces comportements d'attachement n'ont qu'un seul but, c'est d'assurer la proximité de la figure d'attachement pour qu'en cas de besoin ou de danger, elle soit suffisamment proche pour que l'enfant puisse se réconforter. Voilà. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quelle que soit l'attitude de la figure d'attachement, l'enfant va s'attacher, parce que c'est un besoin. Donc même si la figure d'attachement à ce moment-là répond de manière inadéquate, à côté, de travers, pas au bon moment, eh bien l'enfant va quand même s'attacher. C'est vital, donc il va le faire. Et du coup, c'est lui qui, petit à petit, va adapter ses comportements d'attachement vis-à-vis de la personne en fonction de ses réactions. Donc cette figure d'attachement, elle est dite principale ou primaire, hein, c'est-à-dire que c'est la figure vers laquelle l'enfant dirige tous ses comportements d'attachement. Hein, Mary Ainsworth, qui était la collaboratrice directe de John Bowlby, dira « sera susceptible de devenir figure d'attachement tout adulte qui s'engage dans une interaction sociale et durable avec le bébé et qui répondra facilement à ses signaux et ses approches durant la première année de l'enfant ». C'est-à-dire qu'au bout d'un an, l'attachement à cette figure est fait et elle n'est plus et ne sera plus interchangeable. Voilà. Alors, il y a plusieurs figures d'attachement. Là, je vous parle de la figure principale ou primaire. Après, vous avez les figures d'attachement secondaires, hein, qui vont effectivement pouvoir entrer dans la vie de l'enfant et qui seront évidemment les nounous, les enseignants, les professeurs. Voilà. Il y a aussi cette possibilité pour l'enfant dans la théorie d'attachement de modifier peut-être son type d'attachement, d'être régularisé par d'autres adultes et d'autres types de relations. Mais le fait est que sa figure d'attachement principale restera toujours la même une fois qu'elle est constituée. Et cette figure d'attachement peut ou ne peut pas être une base de sécurité pour l'enfant. Elle est base de sécurité lorsque l'enfant trouve du réconfort en sa présence. Et donc, on va, en fonction justement de l'attitude de la figure d'attachement, eh bien on va avoir apparaître ce qu'on a appelé les différents types d'attachement de la théorie. Donc ces types d'attachement ont été mis en évidence aussi par Mary Ainsworth, hein, qui après avoir beaucoup observé les enfants en Ouganda dans leur cercle familial et en contact direct avec leur mère, elle va rentrer à Londres, elle va mettre en place une situation dite standardisée de laboratoire, qui va être une succession de séparations et retrouvailles du jeune enfant avec sa mère, hein, donc ça se fait souvent avec des enfants entre 12 et 18 mois, mais on peut aller jusqu'à 3 ans. Et elle va ainsi dégager plusieurs types d'attachements, hein, donc l'attachement sécure, bien sûr, l'attachement évitant, ambivalent, et puis plus tard, Mary Main, une autre collaboratrice de Bowlby, elle mettra en avant la désorganisation de l'enfant. Donc là, je vous montre un passage de la situation étrange, donc assez explicite, donc qui se passe avec une enfant de type sécure, vous verrez. C'est extrêmement standardisé parce que effectivement tous les comportements de la mère ont été dictés. Hein, on lui demande de placer l'enfant devant les jeux pour voir quelle va être sa capacité d'exploration. Puis, entre une personne étrangère, on regarde l'enfant et ses réactions avec la personne étrangère. Et puis, la mère est invitée à quitter la pièce. Et c'est là qu'on va observer les réactions de l'enfant à la séparation d'avec sa mère. Donc, on parle d'un stress social modéré, hein, puisque l'enfant et la mère sont mis en situation comme dans une salle d'attente. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la situation étrange. Dans une salle d'attente chez le pédiatre, en fait, hein, où il y aurait des inconnus qui rentreraient, qui sortaient. Là, juste, on crée une séparation. Et on observe aussi, extrêmement important, les réactions de l'enfant au retour de la mère. Hein. Ça fait aussi partie des signes qui vont permettre de déterminer le type d'attachement de l'enfant.
Because, in fact, it is just that for the baby or young child. The child and the caregiver enter a room that has lots of toys and some chairs. The caregiver puts the child on the floor to explore.
Shapes order?
Yeah.
Shapes?
After about 3 minutes, an adult stranger comes in.
Hello. Hi. Dr. Fidipides. How are you?
Hi, I'm fine.
Nice to meet you.
This is Caroline.
Hello, Caroline.
Sits down and briefly chats with the caregiver.
How was your trip here?
It was fine. We had no trouble finding it.
Did you feel
And then begins to play with the child.
Oh,
and
look at your corn.
And it's a beautiful day. It is a gorgeous day. Caroline didn't want to come inside.
I don't blame her.
Going to throw that?
Yes, keep it to roll it. Coming back to you. Oh, you kicked it.
Can I kick it?
Oh, he wants ice cream. Or you want ice cream.
The caregiver then leaves and the stranger interacts with the baby. The caregiver signals her return and enters. Reunites with the baby and interacts with the baby while the stranger leaves.
Are you making a sign for Mama's milk?
Yeah.
Yeah, it's not time for that right now. But we can play with some toys. Let's play with some toys. Do you see a big dinosaur? And do you see a tiger? Let's see if we can find the tiger. I think we can find him. Hi.
Voilà. Donc, chaque fois, ça m'émeut de voir la réaction de la salle qui est dans le partage toujours émotionnel avec cette petite fille, hein, qui est réconfortée en même temps, qui est, voilà, c'est assez extraordinaire. Donc, cette petite fille, c'est Cure. Donc, on le voit bien, hein, quand sa maman est dans la salle, est en capacité d'aller explorer. Hein, c'est cette balance dynamique, hein, dont on parle dans la théorie de l'attachement. C'est y a un équilibre naturel qui se fait entre la sécurité de l'attachement, l'enfant sécure qui a intégré la présence sécure de sa mère, qui commence à la mentaliser même à ce très jeune âge, et le fait de pouvoir du coup en toute sécurité aller explorer les jeux qui sont là. Alors après, on voit aussi que c'est une enfant qui est prosociale, qui a déjà une capacité d'entrer en relation avec l'autre, puisque dès qu'elle est en contact avec l'étrangère, eh bien, elle a des gestes d'offrande qui sont très significatifs chez le jeune enfant pour entrer en relation avec l'autre. Et puis donc voilà, socialement, on sent qu'elle est très bien intégrée, qu'elle est assez calme, posée. Enfin, on voit que c'est une enfant qui va bien. Voilà. Maintenant, arrive la séparation avec la maman. Ça déclenche immédiatement le comportement de l'attachement principal qu'on observe chez l'enfant, c'est les pleurs. Voilà. Ma figure d'attachement, même si je suis sécure, s'en va. Qu'est-ce que je fais? Je crie, je pleure parce que j'ai besoin qu'elle revienne. Voilà, elle n'a pas encore 2 ans. Elle a quand même encore besoin de cette présence effective, au moins d'être sûre que sa mère n'est pas trop loin en cas de besoin. Donc l'enfant sécure va manifester tout compte fait assez violemment le départ de sa figure d'attachement. Par contre, on va voir qu'elle est en capacité d'être quand même rassurée par la personne étrangère qui arrive par le langage, par les gestes. Elle a quand même la tournée un peu vers les jouets. Donc ça ne dure pas trop longtemps parce que quand même, il ne faut pas la prendre pour une imbécile, cette petite. Elle a très bien compris ce qu'on était en train de faire. Mais voilà, on voit qu'elle est, l'autre adulte peut la sécuriser et elle est en capacité de... Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au retour de la mère, on a un véritable réconfort. Hein, on le sent dans la voix de l'enfant qui tremble. On le voit dans les gestes de l'enfant, hein, qui a déjà acquis des gestes sociaux de réconfort, hein, qui tapote. Et on le retrouve chaque fois dans chaque situation étrange chez l'enfant sécure. Il y a ce geste qui est reproduit. En fait, c'est lui qui n'allait pas, mais il, par imitation, il tapote le dos de sa mère. Il dit, ça va. Voilà. Hein, et on sent vraiment cette cohésion entre la mère et l'enfant qui fait que il y a tout le poids là du stress de la séparation qui tombe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que immédiatement on a demandé dans cette situation à la mère de remettre l'enfant en situation de jeu pour voir s'il était en capacité de retourner jouer. Et c'est un peu la caractéristique de l'enfant sécure, c'est que le stress n'est pas si important que ça. La manifestation est violente, mais le stress n'est pas si important que ça. Et au retour de sa mère, il est en capacité, en peu de temps, de retourner à l'exploration. Et c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Voilà. Et donc, par contre, c'est très différent quand on a affaire aux autres types d'attachement. Donc là, il n'y a pas de vidéo parce que c'est souvent un petit peu plus problématique. Mais par exemple, pour l'attachement évitant, on va avoir un enfant qui inhibe ses comportements d'attachement. C'est-à-dire qu'il a été en contact d'une figure d'attachement qui était dans le déni de ses propres émotions, qui supporte mal la proximité et le contact physique. Donc dès que son enfant a des comportements d'attachement un peu trop prononcés, des émotions un peu trop prononcées, elle a tendance au rejet, et même si ça persiste, à la colère. Elle est vraiment décrite comme ça. Donc l'enfant apprend de cette personne à ne pas exprimer ses émotions, parce qu'il sait que quand il va exprimer ses émotions, il va recevoir du rejet. Donc qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai des émotions un peu trop fortes, eh bien, je fais comme si rien ne se passait. Donc je compulsionnellement, je me centre sur les objets et je n'exprime pas ma détresse à ma mère parce que c'est la seule manière que j'ai de la garder à proximité. Si j'exprime trop, elle s'en va. Or le but, c'est quand même d'assurer cette proximité sécurisante. Donc voilà comment fonctionne l'enfant évitant. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences après sur le développement de l'enfant, qui va avoir ce qu'on appelle une attitude compulsivement autonome, qui sera plus ou moins agressif quand même et peu compréhensif envers les autres dans sa relation. J'ai oublié un mot. Alors, au moment de cette situation étrange, l'enfant évitant va montrer peu ou pas de détresse au départ de la mère. Il va jouer tranquillement, il va s'installer. On a l'impression que tout va bien avec l'enfant évitant. On va même se dire, on va même tendance à penser, ah tiens, celui-là, il est très autonome. Il parle, il pleure pas quand sa mère s'en va, il est serein. Et en fait, donc, les chercheurs ont fait des expériences. Si on prélève un peu de salive de l'enfant évitant, on va s'apercevoir qu'en fait, il a un taux très élevé de cortisol dans sa salive. En fait, c'est un enfant qui est véritablement en stress, et en détresse, mais qui n'exprime pas physiquement cette détresse. Mais par contre, son corps, lui, sécrète une hormone de stress importante. Voilà. Et quand la mère va revenir, par contre, eh bien, il va être aussi dans cet évitement, donc fuyant du regard, où il va se laisser un petit peu consoler, mais pas trop. Il va fuir un peu ce contact avec sa mère. Et par contre, on pourra voir qu'il a plutôt tendance à se laisser cajoler par la personne étrangère. Voilà. Alors chez ces enfants, ça peut aller d'une personnalité très réservée, donc quelqu'un qui se met toujours à l'écart pour éviter la relation à l'autre, voire un comportement autistique ou psychotique si on est dans ce qu'on appelle un attachement hyper anxieux évitant. Ça dépend vraiment du comportement de la figure d'attachement au départ. Pour l'enfant ambivalent résistant, donc qui est un enfant qui, lui, au contraire, va hyperactiver ses comportements d'attachement. C'est-à-dire que Il a vécu au contact d'une figure d'attachement qui, au contraire de la figure évitante, aime beaucoup le contact physique. Elle aime beaucoup le contact physique, elle aime beaucoup avoir son enfant près d'elle, elle aime ce contact, cette chaleur, sauf que ce n'est pas forcément pour le bien de l'enfant, mais plutôt pour son bien-être à elle. Ça la rassure d'avoir son enfant près d'elle et contre elle, ça la rassure dans sa fonction. Et donc elle a tendance à toujours venir interagir dans les explorations de l'enfant. Donc elle vient le gêner en fait dans tout ce qu'il pourrait apprendre et explorer. Et elle va beaucoup agir sur la peur. Donc elle va un peu effrayer son enfant pour être sûre qu'il reste près d'elle. Donc c'est assez handicapant pour l'enfant après pour ses apprentissages et son exploration. Donc du coup, que fait l'enfant? Surtout qu'en plus, c'est une figure d'attachement qui, quand l'enfant ressent véritablement des émotions, elle n'est pas vraiment en capacité d'y répondre. Elle répond toujours à côté. Enfin voilà, elle n'est pas vraiment disponible à l'enfant. Du coup, on a un enfant qui ne sait jamais à quel moment il va pouvoir s'appuyer sur cette figure d'attachement. Donc comme pour lui, il est vital qu'elle soit proche de lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche. Voilà. Comme ça, elle n'est ni trop loin, ni trop près, ni... elle est là, je m'y tiens, je m'y accroche, il pratique l'accrochage. Aussi, pendant la situation étrange, c'est un enfant qui va manifester extrêmement violemment le départ de sa mère. C'est un enfant qui est très en colère, parce que c'est un enfant empêché, souvent. Et donc, il va se rouler par terre, il va hurler, il va être très difficilement consolable par l'adulte qui est présent. Et au retour de la mère, c'est un enfant qui... va avoir justement ce comportement ambivalent, c'est-à-dire qu'il va aller au contact, accepter d'être réconforté, mais immédiatement après, il va être dans le retrait, il va repousser sa figure d'attachement parce qu'il est fondamentalement en colère contre cette figure d'attachement qui ne lui donne jamais ce dont il a besoin. Et ça, c'est très marquant, on peut l'observer, justement, c'est quelque chose qui est facilement observable, je dirais, dans un contexte de séparation en maternelle. L'enfant ambivalent peut, enfin moi j'en ai rencontré, au retour de la maman, faire mine d'être très content, et puis dans la minute qui suit, prendre son téléphone et le jeter par terre, voilà, avoir des manifestations comme ça, un petit peu violentes à l'égard de la figure d'attachement. Et donc, c'est un enfant qui, même en présence de sa figure d'attachement, n'est pas rassuré. Parce que comme il a toujours peur qu'elle s'en aille, qu'elle ne soit pas assez proche, il n'est pas rassuré. Tant qu'il n'est pas rassuré, il ne peut pas aller dans l'exploration. Dans ces deux systèmes qui sont mis en avant dans la théorie d'attachement, système exploratoire, si le système d'attachement est continuellement activé, comme c'est le cas pour l'enfant ambivalent, l'enfant ne peut pas activer son système d'exploration. Voilà. Donc c'est un peu gênant après pour les apprentissages par la suite. Mais ce qui est intéressant de noter là, c'est que on voit bien que la réaction de l'enfant et la violence de la réaction de l'enfant n'est pas forcément proportionnelle au stress qu'il ressent à l'intérieur. Voilà. C'est la différence qu'il y a entre ces deux enfants ambivalents et évitants et l'enfant sécure qui, lui, est facilement remis dans son système d'exploration une fois qu'il est rassuré. Et le stress dure très peu et est moins important que chez l'évitant ou chez l'ambivalent. Et on peut souvent être trompé par ces différentes attitudes. Et enfin, donc, l'attachement désorganisé, donc, qui a été découvert après, donc, sur une catégorie d'enfants qui étaient difficilement classables parce que justement ils avaient des comportements bizarres et on n'arrivait pas bien à expliquer, puisque ce sont des enfants qui ont vécu au contact d'une figure d'attachement extrêmement effrayante. Ils en ont extrêmement peur. Donc on a pu se rendre compte que c'était souvent lié à la maltraitance, bien sûr, à la maladie, aux violences conjugales, ou alors une grave dépression de la figure d'attachement à cause de traumatismes anciens qui sont non résolus. Et donc les enfants sont face à une figure d'attachement physiquement absente et indisponible, mais présente, ou alors, quand elle est présente, elle a des attitudes extrêmement violentes et effrayantes envers l'enfant, ce qui fait que c'est un enfant qui est dans un conflit interne assez important, c'est-à-dire qu'il a besoin de s'attacher, il a besoin d'être sécurisé par cette personne, mais en même temps, il ne peut pas s'en approcher. Donc vous avez des chercheurs, ou un chercheur en particulier, qui met en avant cette image de c'est comme un enfant affamé devant un gâteau empoisonné. Donc ça crée un petit peu ce dilemme chez lui. Alors évidemment, c'est un enfant qui, sur le plan cognitif, va être très altéré, qui va avancer difficilement, qui va manquer d'empathie, qui va entrer difficilement dans les apprentissages. Et donc à la séparation, c'est un enfant qui ne réagit que très peu, tout compte fait. Là, ce qu'on va pouvoir observer, c'est justement au retour de la figure d'attachement, avoir des comportements, ces comportements-là bizarres et assez inexplicables, d'enfants qui vont avoir envie d'aller vers la figure, donc qui vont tendre les bras, mais qui en même temps vont tourner le buste de l'autre côté. Ou alors, quand la figure d'attachement va rentrer, vont se mettre dans une espèce de sidération, hein, et avec des balancements autistiques, par peur, en fait, hein, sidérés par la présence de la figure qui devrait être sécurisante. Voilà. Donc, quel intérêt de cette séparation, de cette observation pour nous à l'école ? Eh bien, pour l'accueil des tout-petits, bien sûr, parce que ce sont des situations, surtout sur les TPS, hein, je pense aux toutes petites sections, qui sont, je dirais, facilement observables de concert par l'enseignant et par l'aide maternelle, pour essayer de trouver donc peut-être les attitudes justes qu'il y a en fonction justement de ces différents profils et des différentes réactions à la séparation. Alors là, je cite quelques études suisses, hein, qui avaient été menées par Blaise Pierenberg, qui est un attachementiste, et qui montrent donc l'importance de l'attachement dans les structures d'accueil, et donc aujourd'hui de l'école, puisqu'elle accueille les enfants de moins de 3 ans, et qui dit qu'il n'y a pas de conflit entre l'attachement à la mère et l'attachement après avec l'enseignant ou la nounou, puisque l'enfant placé comme ça en crèche va naturellement montrer autant de gestes et de comportements d'attachement envers la nounou qu'envers sa maman, hein, autant de signes affectueux. Donc là, on est dans une forme de continuité, hein, des liens d'attachement avec l'enfant. Mais il y a, dans la théorie de l'attachement, cette notion aussi de rupture, ou du moins de soutien, dans l'attitude que peut avoir justement l'adulte qui accueille, parce qu'avec une attitude plus sécurisante, adaptée à l'enfant, il va permettre de compenser les déficits que l'enfant a commencé à acquérir dans sa famille. C'est là que la théorie de l'attachement devient très, très intéressante. Voilà. Donc Blaise Pierenberg évidemment soulève face à ça la nécessité évidemment d'un accueil de qualité, puisqu'ils ont remarqué dans leurs études que dans 25% des cas, c'était la structure d'accueil qui pouvait provoquer, hein, chez les enfants même de 2-3 ans, eh bien, une insécurité parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Voilà. Et donc avec cette notion vraiment d'assurer, eh bien, une séparation sans violence, sans rupture, avec un véritable accompagnement et un véritable projet d'accueil qui se fait dans le rythme de chaque enfant. Voilà. Et donc, suite à ça, qu'est-ce que ça pourrait être, hein, en fonction de tout ce que les attachementistes mettent en avant, qu'est-ce que ça pourrait être un professionnel sécure, ou comment devenir une base de sécurité pour l'enfant, hein. C'est-à-dire comment devenir ce référent vers lequel l'enfant va se diriger quand il va avoir un problème, une émotion, quelque chose de négatif qui se met en place. Eh bien, il s'agirait quand même de répondre aux besoins, tout d'abord physiologiques de l'enfant, hein. Que ce soit l'enseignant ou l'aide maternelle, d'ailleurs, hein, si ce n'est pas forcément dans les gestes ou là, il y a un besoin de répondre, et une nécessité à répondre à ces besoins physiologiques, et ça a été dit, je dirais, lors de la première conférence mardi matin. Répondre bien sûr à ses besoins affectifs et émotionnels, d'aller vers au contact physique s'il y a besoin, hein, dans le réconfort, être sensible aux demandes et aux besoins de l'enfant, hein. Dans les accompagnements des programmes pour les toutes petites sections, hein, pour l'accueil des enfants de moins de 3 ans, on voit préciser aujourd'hui qu'en cas de nécessité, quand l'enfant est triste, eh bien, il faut le prendre dans ses bras et le cajoler, le réconforter. Alors, moi, je trouve ça très surprenant de trouver ça dans des textes, qui veut dire que ça avait forcément disparu du terrain, je dirais, pas la faute des enseignants, mais justement parce que on a petit à petit amené l'enseignant à se centrer essentiellement sur l'aspect cognitif et à abandonner tout cet aspect affectif, réconfort, dont le tout petit enfant a forcément besoin en maternelle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il ne faut plus gommer. Voilà. Donc il y a la cohérence qui rentre vraiment en jeu, hein. Être sécure, c'est être cohérent dans ses réponses, dans sa manière de faire. Il faut être régulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être comme ça un jour et autrement le lendemain. Donc il y a vraiment une question dans la théorie de l'attachement de temporalité et de régularité. L'enfant se sécurise aussi parce que les réactions sont toujours les mêmes, les séquences relationnelles sont toujours les mêmes, et donc il sait à quoi s'attendre. Et le fait de savoir à quoi s'attendre, c'est sécurisant pour l'enfant. Quelqu'un qui change sans arrêt de positionnement, de caractère, pour un enfant, c'est très déstabilisant. Voilà. Et puis, évidemment, répondre aux besoins d'exploration par la stimulation, le jeu, en assurant la protection. Et chez les tout-petits, à 2 ans, on n'est plus véritablement un bébé. On a un fort désir d'exploration, un fort désir d'indépendance qu'il faut pouvoir accompagner. Donc, évidemment, dans ces structures d'accueil, on va avoir donc une nécessité de continuité avec les personnes dans les soins. On ne peut pas non plus changer sans arrêt de figure référente. En général, on dit qu'en général, 4 personnes, c'est largement suffisant pour un jeune enfant. Il faut être prévisible, comme je vous disais, cohérent. Il faut que les séparations soient limitées. C'est pareil, on parlait du rythme de l'enfant et du temps de l'enfant. Ces séparations successives des différents temps à l'école pouvaient peut-être être anxiogènes pour surtout les enfants insécures parce qu'ils changent sans arrêt de référent. Ils sont sans arrêt obligés de s'adapter. Et ça, c'est vrai que ça pose problème pour le jeune enfant. Il faut être capable d'entrer dans une forme de compréhension émotionnelle et de pouvoir avoir une attitude véritablement empathique vis-à-vis de l'enfant. Pouvoir être en capacité de le consoler, de l'aider, et puis aussi de proposer des solutions. Voilà. Quand un enfant est en détresse, il faut, que ce soit émotionnellement ou au niveau des apprentissages, vous êtes capable d'apporter une solution d'aide sur laquelle l'enfant va pouvoir s'appuyer afin de continuer à progresser. Voilà. Donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup. Donc... Du coup, je pense que les vidéos, ça va être très, très succinct. Qu'est-ce que ça donne véritablement sur le plan de la scolarité et des apprentissages de l'enfant en maternelle? Alors, c'est vrai que je parle beaucoup de la maternelle, mais c'est quelque chose qui se vérifie après, au primaire, et je dirais encore plus au collège, parce qu'au collège, l'enfant subissant de grandes transformations, on dit hormonales, physiques, eh bien, on entre dans une nouvelle période sensible qui réactive le système d'attachement de l'adolescent. Et donc, souvent, les enseignants de collège se confrontent justement à ces divers types d'attachement, donc ils n'ont pas toujours connaissance. C'est pour ça que les adolescents sont souvent problématiques, en fait. Donc, au niveau des recherches étrangères, eh bien, on le trouve. On trouve énormément de recherches qui s'appuient sur la théorie de l'attachement et qui mettent en avant justement les bénéfices de la relation positive de qualité avec l'enseignant. Donc, ce sont des recherches essentiellement anglo-saxonnes, québécoises, mais qui vont montrer effectivement que cette relation positive de qualité, cette relation affective, va faciliter l'adaptation et la réussite scolaire de l'enfant, et particulièrement pour les élèves en difficulté cognitive et sociale. Pourquoi ? Eh bien parce que ces élèves qui sont en difficulté déjà au sein de l'école et dès la maternelle, on le voit, c'est dès la maternelle que ça commence, eh bien, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils ont un système d'attachement qui est toujours en train de fonctionner. Et donc, ce qui les intéresse, c'est la relation à l'adulte. Et s'ils ne trouvent pas cette sécurité chez l'adulte, ils sont dans l'incapacité de mettre en marche leur système d'exploration et le fait d'entrer dans les apprentissages. C'est là que c'est par ces 7 difficultés-là qui les déstabilisent au sein de l'école, du fait de leur attachement insécure, mais aussi des fois c'est la difficulté scolaire qui vient insécuriser certains enfants. C'est cette notion d'avoir un système d'attachement toujours en éveil. Et donc, du coup, on n'est pas disponible pour le reste. Et c'est là que la relation à l'enseignant devient, on va dire, capital, l'enseignant ou l'aide maternelle, ou les deux. Vous savez que les enfants choisissent. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas vraiment de scission à faire, de séparation à faire dans ce domaine-là entre l'aide maternelle et l'enseignant, parce que l'enfant choisit. Il va s'attacher plus facilement à l'aide maternelle ou plus facilement à l'enseignante en fonction de ce qui lui correspond. Et je pense qu'il faut accepter cette possibilité pour l'enfant de choix dans son attachement. Donc, je vous disais, ces recherches se basent essentiellement sur la théorie de l'attachement parce que, justement, elle permet, cette théorie de l'attachement, de définir la sécurité et de s'appuyer sur ce que pourrait être l'attitude sécure du professionnel et comment on met en place une relation positive de qualité avec l'élève. Donc, Michel Venet, donc, qui a fait une étude très éthologique aussi, hein, et qualitative sur des enseignantes en classe de primaire normale, elle dit, va dégager ses gestes professionnels chez ses enseignantes extrêmement rassurantes et proches de leurs élèves, hein, et qui sont toujours dans le souci, hein, de leur progression. Et elle va montrer donc que cette relation positive va passer par une forme de proximité, autant affective que physique, hein, qui a une grande importance du regard, hein, de l'enseignant sur l'enfant, des contacts visuels de l'enseignant avec l'enfant. Toujours cette attitude empathique de l'enseignant qui ressort, cette faculté à pouvoir protéger l'estime de l'enfant, c'est-à-dire pas mettre l'enfant face à la difficulté, pas l'enfoncer, voilà, cette protection de l'estime de soi de l'enfant qui est extrêmement importante, donc qui va avec aussi le réconfort. Elle soulève le fait que l'humour, hein, est un vecteur de sécurité chez certains enfants insécures, et particulièrement chez les enfants évitants, parce que ça les aide énormément à se déstresser et à s'ouvrir, hein, l'humour, parce que ça met à distance en fait, hein, l'humour met quelque chose à distance qui plaît au profil évitant. Et puis évidemment l'utilisation des renforcements positifs, comme on en a beaucoup parlé ce matin. Moi, j'aime bien rajouter ce que dit Blaise Pierre Imbert au niveau de la relation et de l'attitude professionnelle, c'est que le professionnel de la petite enfance ou l'enseignant, eh bien, il doit s'engager véritablement et réellement dans une relation affective avec l'enfant. On n'est pas là en train de faire semblant, hein, mais en ayant conscience de la relation qu'on a envie de mettre en place. Et ce, pour justement éviter justement les effets néfastes, hein, qui pourraient être liés à une mauvaise relation affective, dans la mesure où elle n'est pas conscientisée. Hein. Cette notion de conscientisation et cette intention, hein, qu'on met dans la relation est très importante, de manière à ce que les affects de l'adulte, évidemment, ne viennent pas perturber l'enfant. Hein. Il y a vraiment une forme de presque, pas de don, c'est fort, hein, mais d'engagement affectif, personnel et professionnel, bien sûr, qui va permettre à l'enfant de pouvoir mettre en place cette relation sécurisante avec l'adulte. Voilà, donc en milieu scolaire, cette théorie, moi je pense qu'elle vient nous permettre de penser assez sereinement la relation affective. D'abord parce qu'elle vient expliquer les racines de l'affectivité chez l'enfant, donc on comprend mieux pourquoi il est comme ceci ou comme cela, on peut mieux comprendre ses réactions, hein, parce qu'il a des réactions différentes en fonction de ce type d'attachement face à l'apprentissage et aux tâches qui vont être proposées par l'enseignant, et puis aussi dans sa relation avec l'enseignant. Il y a deux pôles comme ça à observer. Parce que c'est Schroof, hein, Alan Schroof, un Américain qui en 83, en 86, a fait des études longitudinales, il avait même commencé dans les années 70, sur des cohortes d'enfants qu'il a d'abord observées au cours de la situation étrange pour déterminer leur type d'attachement. Et puis, par la suite, il les a suivis à l'école maternelle, et qui va mettre en avant que, justement, les enfants sécures sont des prototypes adaptables à l'école, que ce soit sur le plan des apprentissages ou sur le plan relationnel avec l'enseignant. Et comparativement, les enfants insécures, eh bien, développent immédiatement à l'entrée en maternelle, eh bien, des difficultés relationnelles, des difficultés avec les apprentissages. Voilà. Et il met aussi en avant que les enseignants qui ne sont pas informés, qui ne seraient pas dans ce type de relation, eh bien, auraient plutôt tendance à conforter les enfants dans leur type d'attachement initial. C'est-à-dire qu'ils auraient les mauvaises réponses, des réponses qui ressemblent beaucoup à la figure d'attachement initial, qui ne vont pas permettre à l'enfant, justement, de bénéficier d'une attitude différente, sécurisante à l'école. Voilà. Donc ça, je vais passer parce qu'on n'aura pas le temps. Donc ça, c'est juste les situations d'observation qui ont été faites. Mais je vais passer directement... Ça, je voudrais bien voir. C'est ce qui est observé au cours des interactions enfants-enseignants. C'est tout ce qui est aspect non-verbal dont a beaucoup parlé M. Zanon hier. Oui, c'est ça. Parce que justement, tout cet aspect non verbal, hein, tout cet émotionnel est traduit, hein, par la corporéité de l'individu. Et que donc le corps a une place primordiale et importante dans le partage émotionnel, on va dire, mais même dans l'attitude empathique. Hein. Jacques Cosnier met en avant que le corps est l'expression corporelle face à l'autre traduit les prémices de l'empathie, parce qu'avec son corps, on peut ressentir les émotions de l'autre. Donc vous voyez que gommer le corps à l'école n'est pas forcément une bonne idée. Même si on n'est pas dans l'effusion, dans le fusionnel, il y a vraiment une idée d'échange au niveau des corps qui se passe dans les interactions. Et c'est pour ça qu'on va observer bien le sourire, le regard, l'expression, le positionnement du buste, la vocalité, la distance corporelle, les gestes de stress que fait l'enfant ou l'enseignant, et qu'on va associer ça à tout l'étayage que l'enseignant va apporter dans son accompagnement pédagogique, et donc tout ce qui va être des consignes, des encouragements, des renforcements positifs, ce que Brunner appelait les feedbacks positifs de l'enseignant, les super qu'on a entendus, voilà, toutes ces petites choses qui permettent à l'enfant de continuer son apprentissage. Et puis ce que fait l'enseignant pour réduire la difficulté de la tâche au niveau de ce qui est proposé, pour permettre à l'enfant justement de pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là, je reprends les vignettes pour finir. On se passera des vidéos parce que sinon on n'aura pas le temps de manger. Donc l'enfant sécure, on l'a vu, c'est un prototype quasi adaptable qui naturellement fait confiance à l'adulte étranger, puisqu'il a intégré la présence sécurisante de sa figure d'attachement. Il peut aller facilement vers l'adulte en qui il a naturellement confiance, et donc on a une cohérence naturelle qui se met en place entre l'enfant et l'enseignant, et les autres adultes d'ailleurs, donc qui ne pose pas de problème. Par contre, chez l'enfant ambivalent résistant, on voit que chez cet enfant, ce qui prédomine, c'est l'attrait relationnel, même je dirais l'attrait fusionnel, et pas du tout justement la centration sur la tâche. Et donc il va mettre l'enseignant assez à mal, parce que c'est un enfant qui est toujours en demande, qui pratique l'accrochage avec l'enseignant aussi, qui l'appelle partout, qui l'appelle 20 fois, 50 fois d'affilée, qui est incapable de rester seul face à un jeu ou une tâche, qui va enquiquiner les autres. Enfin, voilà. C'est un enfant qui met un petit peu de panique, mais qui est surtout très 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 en demande, très immature. Et dans ce que soulevait Strouf, voilà, il y a plusieurs façons de réagir à ce type de comportement. Vous avez des enseignants qui vont toucher par cette immaturité, vont entrer dans une forme d'hyper-indulgence vis-à-vis de ce type d'enfant, donc ce qui ne va pas les aider forcément à grandir et qui va conforter l'enfant dans sa relation fusionnelle avec l'adulte. Ou encore, Strouf soulève le fait que les enseignants parfois vont être extrêmement agacés par cet accrochage continuel, perpétuel, toute la journée, parce qu'il faut le dire, c'est épuisant. Et donc il y a une forme de rejet au bout d'un moment de l'enfant, d'écoute, va voir un peu ailleurs si j'y suis, parce que là j'en peux plus, quoi. Ce qui est assez naturel, mais du coup qui déstabilise ce type d'enfant, parce que c'est pas non plus ce dont il a besoin. Alors vous avez Heather Geddes, qui, face à ce type d'enfant, préconise le fait d'y aller par étapes. Comme c'est un enfant qui est dans la fusion relationnelle, on ne peut pas du jour au lendemain lui demander d'entrer dans les apprentissages sans l'accompagnement de l'adulte, sans l'affection de l'adulte. Ce n'est pas possible. Donc, de procéder par étapes, de toujours expliquer ce qu'il va se passer après pour calmer l'angoisse, utiliser, elle dit, l'objet transitionnel, l'objet qui appartient à la maîtresse chez le tout-petit, qu'elle va laisser à côté en disant, voilà, je vais faire autre chose, je vais faire ceci, cela, mais tu vas garder ça près de toi, et puis je reviendrai le chercher, ce qui est possible de rassurer l'enfant. Et plus l'enfant grandit, plus elle préconise l'utilisation du sablier, avec la notion de temps, pour que l'enfant puisse mettre à distance, petit à petit, ses émotions. Voilà. Et c'est difficile à gérer, ce n'est pas simple. Là, on a l'impression qu'il y a des recettes toutes faites. Il n'y a pas de recettes toutes faites. Ce n'est pas si simple, parce que l'enfant ambivalent, il est très fort, et lui, son désir, c'est de vous embarquer dans sa fusion relationnelle, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Et le rôle de l'enseignant, ça va être petit à petit de mettre ça à distance, mais pas de manière abrupte, bien sûr. Donc du coup, vous ne verrez pas les images. Ça y est. Ça non plus. C'est juste pour finir sur les vignettes cliniques. Voilà. pour l'attachement évitant détaché, donc on a vu que c'était un enfant qui inhibait ses comportements d'attachement, qui est un enfant qui va plutôt se centrer compulsivement sur la tâche pour mettre l'adulte à distance. Hein. Surtout, il ne lui demande pas d'aide. Hein. Heather Geddes l'appelle l'enfant qui ne sait pas demander d'aide. Hein. L'enfant évitant ne sait pas demander d'aide. Il a appris à ne pas demander d'aide. Donc, c'est du moins sur le plan relationnel, ça peut être très déstabilisant pour le professionnel, puisque il est mis à mal dans sa fonction. Hein. En fait, je lui sers à rien. Il ne veut pas de mon aide. Il est autosuffisant. Voilà, cette impression d'autosuffisance désagréable. Parce que pour vous tenir à distance, l'enfant évitant est désagréable. Hein. Il est fuyant, désagréable, agressif. Et il faut pouvoir respecter ça parce que dans les attitudes, il y a le fait de écoute, il se débrouille tout seul, c'est très bien. Hein. Je veux dire, surtout quand on a une classe très chargée avec des enfants très difficiles, si celui-là se débrouille tout seul, tout compte fait, c'est pas si mal. Hein. Et on rejoint là l'attitude de séparation au moment de la situation étrange. Hein, où il est très bien, il est autonome, il est parfait. Voilà. Donc c'est vrai que souvent, c'est un style d'enfant qui peut très bien passer à l'école. Hein. Il centre sur les activités. Il peut aussi très bien réussir scolairement, d'ailleurs, hein, puisque même sa figure d'attachement focalise aussi sur la réussite scolaire. Hein, puis il s'occupe pas des émotions, donc il est un peu habitué à ce style de fonctionnement-là. Et le fait de vouloir absolument aider cet enfant malgré lui, eh bien, c'est chaque fois lui donner l'occasion d'aller un peu plus loin. Hein. Donc c'est pareil, il faut toujours doser cette distance. Hein. Et c'est là que, avec les enfants évitants, l'humour est très utile et la tâche est très utile. Hein. Heather Geddes préconise justement de se servir de la tâche comme d'une barrière émotionnelle avec l'enfant. Voilà. Utiliser son outil hein, et petit à petit pouvoir se rapprocher comme ça ou pas. Le fait est qu'il puisse quand même voir dans l'enseignant quelqu'un qui est sécurisant parce que justement il va respecter la distance que lui impose à un moment donné. Alors on passe. Hop. Est-ce que j'en ai oublié un? Non, je les ai tous faits. Voilà, donc l'attachement désorganisé, désorienté, donc on l'a dit, donc stratégie incohérente, pas de cohérence de stratégie, altération cognitive, c'est un enfant qui va pouvoir passer souvent au sein de la classe par un enfant qui a des problèmes d'attention, évidemment, un hyperactif, alors que c'est pas forcément le profil, c'est un enfant qui désorganise tout. Dans une classe, c'est un enfant qui a souffert, hein. C'est un enfant qui n'est pas intéressé par ce qu'on va lui proposer, c'est un enfant qui refuse l'autorité hein, et qui va être extrêmement provocant avec l'adulte, hein. Il cherche la provocation, il a vécu dans des atmosphères extrêmement violentes, il est dans une forme d'hypervigilance hein, et donc son cerveau est dans l'incapacité de pouvoir se centrer sur des tâches scolaires. Et il fonctionne très souvent en dessous de ce dont il serait capable. Voilà. Et donc là, il n'y a pas vraiment de recette avec ces enfants-là, parce que ce sont des enfants extrêmement problématiques en milieu scolaire. Même chez les petits, parce que j'ai une petite fille dans ma classe, c'est très symptomatique. Hein, je veux dire, tout va bien, on est là, on fait quelque chose, elle est souriante, elle est sereine. Et puis d'un coup, elle me regarde et elle me dit « Tu sais quoi, maîtresse ?» Alors, je dis « Ben non, je ne sais pas. » Eh bien, j'aime bien quand t'es pas là. Ah bon, pourquoi tu n'aimes pas quand je suis pas là? Eh bien, parce que quand tu es pas là, je suis sage avec les autres maîtresses. Et elle attend. Voilà, elle attend. Donc il y a vraiment ce, alors que rien ne pourrait faire penser que si il y a ce désir là de venir provoquer l'adulte pour rentrer dans une zone de conflit. Il fait pareil avec les camarades. Et je vois mes collègues qui ont accueilli dernièrement des enfants donc victimes de maltraitance. Un enfant, elles disent un, ça fait une semaine qu'il est là, il a désorganisé toute ma classe. S'il y a un très mauvais esprit derrière qui a été acquis par l'enfant, il ne sait pas faire autrement, il n'a pas d'empathie, il n'a pas pu développer son empathie au sein de sa famille. Et donc, avec des enfants désorganisés, bien évidemment, on ne peut pas rester seul. L'enseignant ne peut pas rester seul, il est mis trop à mal. Ce sont des enfants épuisants émotionnellement. Donc, il est vraiment nécessaire pour ces enfants de faire appel à tous les réseaux d'aide que l'on a dans l'éducation nationale, parce que seul, ce n'est pas possible. Alors Heather Geddes dit que parfois la figure d'autorité du vieux maître d'école marche mieux que l'autorité de l'enseignante. Pareil qu'il y a cette figure-là qui peut marcher chez le désorganisé, mais chez l'enfant désorganisé, c'est bien la prise en charge, le plus tôt possible pour aider cet enfant-là et aider ses parents, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Je clôt.